Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrián Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. En outre, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous pouvez trouver une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Pendant les plus de 60 jours de quarantaine obligatoire en Argentine, on a constaté une croissance exponentielle des cas dans les quartiers vulnérables de la ville de Buenos Aires et de la province du même nom, mieux connue sous le nom de Villas, en raison de la précarité des conditions de vie. La bombe a explosé dans la capitale de l'Argentine avec la mort de Ramona Medina, une femme de 42 ans, qui avait dénoncé que dans son quartier, connu comme Villas 31 ou Carlos Mujica, ils ont passé plus de 15 jours sans eau potable. Dans une vidéo qui a ému tout le pays, elle a fini par démontrer la différence abyssale qu'il existe en confinement pour les classes les plus vulnérables du pays et le reste de la société. Des quartiers sans ou avec peu d'accès à l'eau potable, des logements surpeuplés, des emplois précaires qui, avec le chômage, ont conduit à l'effondrement de leur économie domestique et à la croissance exponentielle de la fréquentation des cantines sociales et des restos du cœur par des familles entières pour avoir accès à la nourriture quotidienne. Quelques jours après cette dénonciation, Ramona et sa famille ont été hospitalisées par le Covid et elle en est morte. Lundi, des représentants de diverses organisations sociales et des 63 cantines communautaires du quartier se sont réunis dans la paroisse pour demander au gouvernement municipal, dirigé par Horacio Rodríguez Larreta, une urgence sanitaire, de logement et alimentaire. La Villa 31 est la plus affectée par le coronavirus dans la ville, avec près de 900 cas détectés sur un total d'environ 1500 dans l'ensemble des quartiers vulnérables, tels que la Villa 1, 11, 14 ou la Savaleta, tous deux situés dans le sud de la ville. Nous avons récupéré deux rapports, datant du mois d'avril, de CGTN et de Medi1 TV en français, qui présentent bien la situation dans les bidonvilles de Buenos Aires.
Pour de nombreuses personnes qui font la queue ici, c'est le seul repas que leur famille a dans la journée. Depuis l'épidémie de coronavirus, les soupes populaires dans les quartiers à faible revenu ont vu un nombre croissant de personnes devant leurs portes. Noelia Toledo travaille pour Our Angel Soup Kitchen.
Il y avait 30 enfants qui venaient avant pour de la nourriture. Ensuite, il y avait 50. Après, toute leur famille est venue et maintenant, avec la pandémie, c'est beaucoup plus. Environ 50 familles viennent ici.
Ici à Bernal, au sud de Buenos Aires, Noelia Toledo cuisine tous les jours pour les autres. Elle compte sur les dons des parents à une école où elle travaille comme gardienne afin d'acheter de la nourriture. Noelia dit que ces quartiers sont en danger à cause de la propagation du virus.
Ici, dans ce quartier, je n'ai pas eu connaissance de cas. Mais si nous avons un cas, ce serait terrible, car nous vivons tous ensemble, les uns à côté des autres.
Le confinement strict de l'Argentine a permis de maintenir le nombre d'infections au Covid-19 relativement bas. Mais ils font face à une situation désespérée, car l'économie s'est arrêtée durant la pandémie. Certains craignent plus la faim que le virus. Mathias et sa famille vivent à côté de Noelia. Lui avait un travail régulier comme gardien avant l'épidémie de coronavirus, mais il s'est mis à vendre des produits nettoyants. C'est de pire en pire. Ce que le quartier, Noelia et la soupe populaire ont besoin, c'est de l'aide. C'est un dicton ici, mais c'est vrai, le pauvre aide le pauvre, le riche n'aide jamais. Le gouvernement argentin a promis l'équivalent de près de 6% du PIB du pays pour soutenir les familles à faible revenu. Et il envisage de mettre en œuvre un impôt sur la fortune alors qu'il mène des négociations difficiles sur le remboursement de la dette extérieure. En attendant, ce sont les soupes populaires comme celle-ci qui continuent de fournir un seul repas chaque jour pour ceux qui en ont le plus besoin, et ils sont de plus en plus nombreux.
À Buenos Aires, les pauvres paient le plus lourd tribut de la crise du coronavirus. Alors qu'il était jusqu'à présent difficile de faire respecter le confinement dans les favelas, désormais, la population commence à se mettre volontairement en isolement. Je n'amène plus les enfants en dehors des favelas. Le nombre de cas de coronavirus a commencé à augmenter. La seule raison pour laquelle je sors, c'est pour aller acheter de quoi nourrir mes garçons. Si les rues sont vides, les ventres le sont aussi. En plus de la précarité, la menace du coronavirus grandit. À Buenos Aires, la propagation du coronavirus dans les bidonvilles, où vivent 45 000 personnes, inquiète l'État et les autorités locales. Il y a 72 hectares de favelas avec approximativement 45 000 personnes dans une extrême pauvreté, dans des espaces très réduits et dans une grande promiscuité. Si le coronavirus entre dans ces quartiers, cela va faire beaucoup de dégâts.
Par ailleurs, le gouvernement national d'Alberto Fernández a étendu le plan Détectar aux quartiers vulnérables de la province de Buenos Aires et à d'autres grands centres urbains du pays. Ce plan vise à détecter rapidement les patients atteints de coronavirus positif grâce à un dispositif créé par des scientifiques argentins qui ont obtenu un kit qui coûte 8 $ contre 60 $ pour ceux qui devraient être achetés hors du pays. Selon le ministère de la Santé, le coronavirus frappe les femmes et les hommes dans des proportions presque identiques. Les principaux groupes d'âge affectés par les cas signalés sont les personnes entre 20 et 59 ans, avec une moyenne d'âge de 40 ans dans tout le pays. Parlons un peu de littérature franco-argentine, autant argentine en français que française en espagnol. Pour commencer, écoutons Julio Cortázar qui fait un parallélisme entre Buenos Aires et Paris, deux villes qui l'ont beaucoup marqué.
Chaque fois que je me promenais dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires. Et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, je sais très bien que je ne suis pas le même qui, pendant la journée, mène une vie ordinaire et normale. Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second. Mais il est évident que ce fait de se mettre à marcher dans une ville comme Paris ou Buenos Aires, la nuit, cet état ambulatoire où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, mais situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégiée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes, tout ce qui finalement a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique, marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases, de bribes de pensées, de sentiments, tout ça crée un système de constellations mentales et surtout de constellations sentimentales qui déterminent un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. C'est à ce moment-là où il y a, à Paris par exemple, des lieux qui ont été toujours privilégiés pour moi. Je pourrais vous citer un, le premier qui me vient dans la mémoire. Là, tout près d'ici, au Pont Neuf, à côté de la statue d'Henri IV, il y a un réverbère dans le fond, là où on descend pour prendre les bateaux mouches. La nuit, à minuit, quand il n'y a personne, ce coin-là, solitaire, c'est absolument pour moi un tableau de Paul Delvaux. Et il y a le sentiment du mystère qu'il y a dans les tableaux de Paul Delvaux, cette imminence d'une chose qui peut paraître, qui peut se manifester, et qui vous met dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les catégories logiques et les événements ordinaires. Je pourrais aussi vous parler du métro à Paris. Le métro a été toujours pour moi un lieu de passage, où il me suffit de descendre dans le métro pour entrer dans une catégorie logique tout à fait différente, ou des catégories logiques. Mon sentiment du temps change. D'ailleurs, dans une nouvelle, L'homme à l'affût, il y a un personnage qui découvre que le temps est complètement différent quand on est dans le métro que quand on est en surface. Et il peut même le prouver logiquement. Ça, c'est un sentiment, une expérience que moi j'ai au moins une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire brusquement découvrir que dans certains états de distraction dans le métro, on a le sentiment qu'on peut habiter dans un temps qui n'a aucun rapport avec le temps qui existe surface quand on sortira une fois de plus dans la rue. Un Paris absolument magique, mystérieux, et c'est ce que j'appelle mythique.
Elsa Osorio a été l'un des 30 écrivains argentins invités d'honneur au Salon du Livre de Paris 2014. Ses ouvrages ont été récompensés par de nombreux prix. Traduit dans plus de 15 langues, L'os ou le temps sauvage de 2002 a obtenu le prix Amnesty International. C'est une bonne occasion pour elle de parler du drame des enfants volés pendant la dictature civile militaire de 1976 à 1983 dans son pays.
Le poids de l'histoire maintenant est assez fort, mais la littérature argentine a passé pour toute une période où on parlait de l'histoire, mais justement de l'histoire des héros de la patrie. Les premiers livres qui sont sortis sur le vol d'enfants, c'était quand même très dur. On ne trouvait pas une maison d'édition qui voulait les publier en Argentine. Et alors que bon, maintenant les choses ont changé dans la littérature et disons dans l'histoire, dans la vie sociale de notre pays, mais ça continue à poser un problème parce que c'est-à-dire il y a deux écrivains qui s'occupent de l'histoire, mais il y en a d'autres qui pensent qu'il faut pas se mêler à ces choses-là. C'est comme si la réalité, ce n'était pas vraiment un sujet littéraire. Et nous, on a eu des grands écrivains comme Borges, qui écrivait la littérature fantastique, et qui a une littérature super. Et Cortázar aussi, mais Cortázar était quelqu'un qui était très engagé. Mais alors, ça continue à poser de questions. Ça m'a pris du temps de pouvoir écrire sur cela. Et ce n'est pas parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a empêché d'écrire. Parce que j'ai écrit, je commençais à écrire et après j'ai publié un livre 20 ans après les coups militaires. Mais c'est le moment où j'ai voulu raconter une histoire et moi-même, je ne savais pas à quel point ça allait me faire... Parce que je me suis dit, bon, je vais raconter l'histoire d'une fille qui cherche elle-même ses origines. Parce qu'à l'époque, des petits-enfants, des grandes-mères de la place des Mai, qu'elle cherchait, de ce petit-fils, mais il n'y avait pas une jeune fille ou un garçon qui cherchait. Et là, ouf, j'étais en 1976, à cette époque-là, et là, je me sens, c'est-à-dire la peur que je sentis en ce moment me pousse, si vous voulez, à écrire. Et aussi, dans un moment, c'était clair et net que je voulais qu'on sache que pendant la dictature, on a volé des enfants. Et c'est pas qu'on les a adoptés, on les a volés, et les mères, elles étaient assassinées. Et alors que c'est quelque chose de enfin, très fort, moi je l'ai construit d'une façon littéraire comme un thriller, mais c'est à partir de ce moment que je peux parler. J'ai eu de problèmes parce que j'écris beaucoup d'années avant. Et après, je suis allée vivre en Argentine. Et c'est-à-dire que le moment que j'écris, il y a deux jeunes qui ont connu ce roman, des enfants des disparus, une association qui s'appelle Hijos. Ils ont écrit une lettre très émouvante au personnage, parler aux jeunes. Et ça me plaît énormément parce que je sens que ça se produit une communication qui est très proche. Parce que l'identité est un sujet qui intéresse les adolescents. Et alors que, bon, en Argentine, malheureusement, toute cette histoire de l'identité a été très, très dure. Et alors que je sens que c'est quelque chose que c'est plus, je dirais que c'est plus facile de parler avec le jeune, parce qu'en plus ils n'ont pas vécu cette histoire. Maintenant ça a beaucoup changé, mais il y a beaucoup de monde qui ne voulait pas du tout qu'on le sache, parce qu'il y a beaucoup des enfants, enfin maintenant ils sont des hommes et des femmes, mais qui n'ont pas encore trouvé l'identité.
Si l'on parle d'auteur, il faut aussi faire mention à leurs livres. Bien qu'en confinement, pour raison de pandémie, les librairies de Buenos Aires sont fermées. Pourtant, elles offrent un service de vente par correspondance. C'est le cas de La Mil y Una Hojas, Les Mille et Une Feuilles, la seule librairie française de Buenos Aires. Le reportage de TV5 Monde d'il y a quelques mois nous la présente.
Bonsoir et bienvenue à Buenos Aires. Je vais vous faire découvrir l'un des cœurs battants de la francophonie de la ville. C'est la librairie, non pas des Mille et Nuits, des Mille et Une Feuilles. Et j'ai rendez-vous avec Monica, la libraire bonjour. Et la directrice de la librairie. Bonjour Monica.
Bonjour.
Alors on est où ici? Chez vous?
On est là, on est dans notre librairie. Comme vous avez vu, il y a deux vitrines. Il y a une qui est en français et l'autre en espagnol. Et c'est la seule librairie qui reste à Buenos Aires. Et voilà, on est à côté de l'Alliance française, dans la rue Avenue Córdoba, que c'est une rue centrale, c'est le micro-centro de Buenos Aires.
Depuis quand cette librairie existe?
Elle existe depuis, ça fait 32 ans. Mais ici au centre-ville, ça fait à peu près 8 ans. Il y avait énormément de livres françaises.
D'autres librairies francophones, oui, il y avait d'autres librairies
énormément.
Ici.
Il y avait même Hachette.
Et donc, vous êtes le dernier bastion pour lire des livres en français.
De la littérature. Parce que des méthodes, on peut trouver, mais la littérature et puis des rencontres qu'on fait avec les écrivains, il n'y a pas beaucoup. Là, vous voyez, ça, c'est notre parent, Daniel Pénac.
D'accord.
Et avec Karine Henry. Karine Henry, c'est la libraire de Comme un roman à Paris, de la librairie Comme un roman. Donc, on établit un rapport avec eux, avec Karine Henry, qui justement s'appelle Comme un roman. Donc, c'est le titre du livre Daniel Pénac. Et Daniel, il a voulu aussi, il était bien d'accord pour être notre parent.
Qu'est-ce qu'on trouve dans votre librairie? Quel type d'ouvrage on trouve? Vous avez dit de la littérature d'abord.
De la littérature, on trouve de la littérature française. Donc, bien sûr, vous trouvez la plupart des auteurs sont français, africains. Il y a aussi des étrangers. Vous trouvez de la littérature traduite latino-américaine. Il y a aussi quelqu'un qui est une Argentine, mais a écrit son premier ouvrage en français, parce qu'elle est partie exilée en France, s'appelle Laura Alcova, qui était publiée justement.
Donc ça, c'est le rayon...
C'est le rayon latino-américain.
Hein, en français.
Il y a le policier. Là, vous en avez aussi des livres de photos, hein, parce qu'il y a énormément de gens qui cherchent des livres d'art. Photographie, vous trouvez du théâtre, de la poésie. Ici, vous en avez des tables où vous en avez des livres, quelques suggestions. Des sciences sociales, de la BD, des livres pour les enfants. On a beaucoup de livres pour les enfants. Ici, devant, vous en avez énormément aussi. Là, les parents, ils apprécient beaucoup les livres pour les enfants. Alors, c'est un public, de plus en plus, c'est un public local, argentin. Il n'y a pas énormément de Français et qui ne parlent pas du tout parfois le français, mais qui s'intéressent. Donc, c'est à nous justement de donner les goûts pour la littérature, savoir qu'est-ce qu'on peut adapter pour ces enfants. C'est très important le travail des relais, parce qu'ils ont peur, comme il n'y a pas une tradition comme avant. C'était auparavant, la culture française, elle était très présente en Argentine. Maintenant, c'est fini.
Fini, ou
il y a très peu. Ouais. Non, c'est pas fini, ouais. Mais fini par rapport aux familles.
Donc c'est un peu un combat quand même que vous menez un petit peu au quotidien pour faire continuer à vivre le livre en français.
Tout à
ici,
fait.
En
Argentine. Je vous dirais un combat idéaliste.
Idéaliste.
Et si, parce que les livres, c'est quelque chose d'abord qui passe. Hein, la littérature classique reste, mais les restes, on est toujours censé d'être autant de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on lit, et d'être en rapport avec la France. Ça, c'est toujours. Pour résister, pour rester encore vivant et riche, il faut toujours ces ponts culturels avec la France. Là, mon ami libraire, Karine Henry, m'a dit, écoute, de toute la librairie, les livres que je te conseille, c'est celui-là. Femme désirée, femme désirante. Ça, c'est pour passer un message entre les femmes et quand on a des enfants femmes, justement. Aujourd'hui, c'est le jour de la femme au monde, à Buenos Aires aussi. Donc voilà, ça, c'est un livre qu'on conseille. Là, par exemple, il y a Boris Cyrulnik, je me souviens. Là, il va venir d'ici un mois.
D'accord.
Donc,
où est-ce que vous organisez les rencontres?
Ici. On bouge les tables, on met les chaises. Vous avez vu dans la photo, il y a Daniel Pénac. Justement, on fait une mise en scène. Donc, là, il y a Manuel, c'est un libraire. Et il a l'habitude aussi de bouger les tables, de préparer tout.
Oui, parce que c'est pas très grand. Hein,
non, c'est pas très grand, mais si vous avez vu bien sur la photo, il y a quand même, c'est rempli. Mmh. Et on a une autre librairie. Celle-ci, c'est plus petite. Et on a une autre librairie dans un quartier de Belgrano.
Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des gens de passage ou des gens qui vivent déjà à Buenos Aires pour leur donner envie de venir vous voir ici dans la librairie?
Que c'est un monde dont on a à chaque fois besoin de qu'il soit riche à l'intérieur. Donc, toujours prendre un livre avec soi, c'est déjà avoir son monde pour s'enrichir en dehors de tous ces mondes qui bougent, qui est tellement... parfois désespérant, on prend un livre, on comprend beaucoup de choses. Il y a, je ne sais pas, moi, j'adore.
Alors, si vous venez à Buenos Aires ou si vous y êtes déjà, rencontrez Monica.
Et Manuel, et tous les libraires
qui sont là. Quand je disais que c'était un cœur battant de la langue française et de la francophonie, c'est vrai ici, on est à deux pas de la langue française. Donc, poussez la porte et venez acheter un livre ici, à Buenos Aires, un livre en français, bien sûr.
los añicos del cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer, tejer mi mata leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz.
Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida.
Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, un latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, soy el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna, la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad, de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Soy todas sus ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Y al sembrar tu luz,